Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Minute Papillon.
Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de l'homme avec un grand H, de Néandertal, avec une grande enquêtrice de l'histoire, Marilène Patoumatis, préhistorienne, directrice de recherche au CNRS. Néandertal accusé. Encore. Notre cousin humain, qui a foulé notre terre entre 400 000 et 35 000 ans, a longtemps été considéré comme inférieur à nous, Homo sapiens. Et avec la pandémie de Covid-19, le voilà de nouveau accusé par une étude scientifique. Les personnes portant un segment de l'ADN de Néandertal peuvent avoir davantage de complications sévères de la maladie. Considérer Néandertal comme inférieur, porteur des défauts de notre génome, ou encore comme une comète de l'histoire, c'est faux, c'est archi faux. Et ça, c'est Marilène Patoumatis qui va nous le dire dans cet épisode de Minute Papillon. Elle est directrice de recherche au CNRS, rattachée au Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle est spécialiste des comportements des Néandertaliens et des premiers hommes modernes. Elle a publié nombre d'ouvrages, comme par exemple « Qui était Néandertal ?» aux éditions Bayard. Et aussi « L'homme préhistorique est aussi une femme » aux éditions Alary. Premier cliché à déconstruire, penser Néandertal comme une comète de l'histoire, un peu idiot, qui ne s'est pas adapté à son environnement, c'est faux, archi-faux.
Les Néandertaliens, si vous voulez, c'est des peuples chasseurs-cueilleurs nomades. Alors, nomade, ce n'est pas qu'on prend son baluchon tous les matins, c'est qu'on change deux fois de campement dans l'année. Et ils ont réussi, si vous voulez, à durer des milliers d'années.
Environ 400 000 ans.
400, vous vous rendez compte, c'est énorme. Nous, les sapiens, notre origine, c'est 300 000 ans pour le plus vieux. Donc nous, on a fait 300 000 ans, eux, ils en ont fait 400. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi, qu'ils se sont adaptés, qu'ils ont répondu à leurs problématiques. Et donc voilà, ils ont amélioré leur technique, ils ont taillé des outils de plus en plus performants, ils ont adapté leur stratégie. Ils vivaient, il faut arrêter de penser que les hommes préhistoriques survivent. Non, ces hommes-là vivaient. Ils ont en plus plein de pensées, pas seulement de subsistants, ils enterrent leurs morts.
Oui, donc il y a une vie au-delà. En tout cas, il y a
au-delà.
Des questions.
Ils font sur des os, sur des pierres ou sur des os, ils font des traits, ils gravent des choses. On ne sait pas ce que ça veut dire, c'est des signes. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Ils font un dièse. Pas hashtag à cette époque. Donc on ne sait pas. Vous voyez, mais c'est déjà très fort. Ils pensent à l'au-delà, à la transformation des corps, etc., en faisant ces rituels. Il y a toute une pensée. On est même en train de discuter. Éventuellement, si certaines grottes, les peintures qu'on a trouvées, les gravures qu'on a trouvées dans certaines grottes, on fait justement, on joue là en ce moment justement les détectives pour savoir si c'est vraiment que les hommes modernes, nos ancêtres, les Cro-Magnons, qui ont peint ces grottes-là. Est-ce qu'il n'y a pas des grottes, est-ce qu'il n'y a pas des peintures dans ces grottes ou des gravures qui ont été faites par les Néandertaliens? Parce que beaucoup, beaucoup de ces peintures et gravures ne sont pas datées. Mais comme on pense préjugés,
Que
les Néandertaliens ne pouvaient pas. Et même encore maintenant, on se dit, ah ben ça, on a toujours dit, ça ne peut être que les sapiens. Mais on n'en sait rien pour l'instant. Ça se trouve, on va avoir des surprises.
Et nous, les derniers des sapiens, qu'est-ce qu'on peut retirer, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Néandertal, dont on garde quelques gènes, seulement quelques gènes encore aujourd'hui?
Ben, c'est que, si vous voulez, on m'avait demandé récemment, pour un journal, un magazine, de faire une uchronie.
Voilà. Et alors,
l'Uchronie, c'est-à-dire si les Néandertaliens étaient encore parmi nous. Et là, moi, ce que j'ai constaté jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une différence importante pour moi entre les sapiens et les Néandertaliens de l'époque, je parle. Les sapiens de l'époque. C'est qu'il y a probablement, parce qu'il faut toujours un scientifique et pas, toujours à dire probablement, en relation avec la nature d'une façon beaucoup plus en symbiose, beaucoup plus en échange, beaucoup plus à ce que Moss aurait appelé le don contre don. C'est-à-dire qu'on est plus dans une relation comme ça, de partage de frères. Comment tuer son frère? Comment tuer son, l'animal qui est son frère? Parce que les Néandertaliens vont beaucoup tirer de l'animal. Ils vont énormément, parce que, bien sûr, pour manger, mais pas seulement. Aussi pour se vêtir, pour faire les tendons et tout ça, les ficelles, c'est à partir des tendons d'animaux. Et bref, ils tirent plein de choses de l'animal. Donc, c'est un ensemble de ressources. Et donc, il y a ce lien très, très fort. Et ils vont faire quelque chose d'intéressant, c'est que, ou plutôt ne pas faire, c'est qu'ils ne vont pas utiliser les armes naturelles, les animaux. Vous savez, les mammouths, ils ont des grandes défenses en ivoire. Les rennes, ils ont des bois. Voilà. Et ça, c'est leurs armes naturelles. C'est pour se défendre que ces animaux ont ça. On peut faire des parades aussi, pour, je suis le plus beau. Mais aussi quand même pour se défendre. Et là, les Néandertaliens, contrairement aux sapiens, à Cro-Magnon, ils ne vont pas utiliser ces armes pour tuer. Ils ne vont pas prendre les bois des rennes pour tuer les rennes. Ce que va faire sapiens. Parce que dans leur cosmogonie, dans leur vision du monde et tout, dans leur panthéon, c'est l'animal, les animaux, ils sont très très proches des animaux. Et ces animaux, ils les connaissent. Sapiens, il arrive, il était au Proche-Orient, il voyait des gazelles et des aurochs, il arrive, il voit des mammouths et des bisons, ça n'a rien à voir. Donc, il n'a pas le même rapport à ces animaux. Mmh. Donc, au départ, si vous voulez, il va y avoir ces différences. Et ça, c'est très intéressant. Et Néandertalien, il a fait de l'art abstrait. En tout cas, nous, ce qu'on nomme art. En tout cas, il a dessiné des symboles abstraits, etc., qui nous échappent. Et là, pour l'instant, on n'a pas la preuve qu'il ait fait des figurations. On n'a pas la preuve qu'il ait dessiné un cheval, ou un bison, ou un mammouth. On le sait pour Sapiens. Et pour moi, c'est la proto-domestication, déjà. C'est-à-dire que Sapiens va enfermer, emprisonner dans l'image l'animal. Mmh. Vous voyez, il va le capturer dans l'image. Ce que ne va pas faire Néandertal, parce qu'il n'a pas envie d'emprisonner l'animal. Et Sapiens va l'emprisonner d'une façon symbolique sur une image, et après, il va l'emprisonner tout court. Il va le parquer, puis après, il va le domestiquer. Donc, je pense que s'il y a une différence, à mon avis, elle est de cet ordre-là. Elle est plus, et je crois que beaucoup, il y a un certain consensus, je ne parle pas de certains illuminés, consensus sur le fait que ce n'est plus un problème d'infériorité technologique, il savait faire des tas de choses comme Sapiens. Il a même fait des choses qu'on pensait que c'était que Sapiens, et non, il les a fait, des lames, etc. Bref, il fait plein de choses. Ce n'est pas là. Je pense qu'il est différent, parce qu'il n'est pas semblable, personne, toutes les cultures sont différentes. Il est assez différent, je pense, dans l'approche à la nature. Dans sa façon de voir, de percevoir le monde. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc peut-être que s'il était, c'est ce que je disais dans mon petit article, que peut-être s'il était encore parmi nous, on ne serait pas en train de se poser la question de la sixième extinction.
Vous dites, pourquoi l'homme et la femme de Néandertal qui peuplaient les terres aujourd'hui, c'est à peu près l'Europe et le Proche-Orient, il a disparu, elle a disparu, alors que Homo sapiens a prospéré. À quoi c'est dû?
Alors justement, c'est intéressant, cette question. C'est une question sur beaucoup de situations. Il y a beaucoup de civilisations qui ont disparu, même biologiquement. Il y a des îles, il y a des groupes d'humains qui vivaient sur certaines îles qui ont totalement disparu. Il n'y a plus un Tasmanien. Donc il y a des groupes qui sont comme ça éteints. Alors, en fin de compte, et c'est des sapiens, donc en tant qu'espèce, ils ne sont pas éteints puisque nous sommes là. Mais les Néandertaliens, si vous voulez, ils ont eu, à mon avis, un gros problème, un problème démographique. Ils avaient un très, très vaste territoire où ils étaient tout seuls. Il faut vous imaginer que pendant, on va synthétiser 350 000 ans, ils étaient tout seuls en Eurasie. Moi, j'ai travaillé jusqu'en Ouzbékistan, sur un site d'Ouzbékistan. Ils ont été jusque dans l'Altaï. Donc, vous voyez, des îles britanniques jusque là-bas. C'est énorme. Hein? Donc, au nord, vous vous arrêtez à la Hollande, parce qu'après, tout ça, c'est englacé. Mais vous allez quand même. Moi, j'ai travaillé en Ukraine, en Crimée, en Pologne et tout. Donc, tout ça, c'est vaste. Et ils ne sont pas très nombreux. Mais partout, même les Cro-Magnons n'étaient pas très nombreux. Mais là, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont très dispersés. Et donc, probablement, et on le voit grâce, là aussi, au niveau de l'enquête génétique, de pouvoir faire l'ADN maintenant, on constate qu'il y a la consanguinité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir déjà de 50 000 ans, il y a un problème. Ils sont trop éloignés les uns des autres, donc ils doivent se reproduire un peu trop entre eux. Et on voit apparaître la consanguinité. Et on voit même des consanguinités qui vont, ce que nous on appellerait, ce qui n'est pas le cas à l'époque, il n'y a pas de famille, il faut arrêter de penser qu'il y a papa, maman et tout le monde. Non, c'est un clan, il y a des hommes, des femmes, des enfants. Et là, ce que nous on appellerait entre la tante et son neveu, l'oncle et sa nièce, de ce niveau-là, c'est assez élevé au niveau de la consanguinité. Donc ça va affaiblir aussi, va jouer. Et quand les sapiens vont arriver, vers à peu près 43-45 000 ans, les homo sapiens arrivent. On vient du Proche-Orient. Nos ancêtres sont venus du Proche-Orient. Donc ils arrivent, ils vont peupler cette Europe qu'ils ne connaissent pas. Et donc là, qu'est-ce que vont faire les Néandertaliens qui sont autour de ça? Ils arrivent dans les Balkans, vous voyez, vers la Bulgarie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'éloigner. Ils ne vont pas en conflit. Il n'y a pas de conflit. Ils ne vont pas tuer les sapiens, et les sapiens ne vont pas tuer les Néandertaliens. Il y a un évitement, c'est-à-dire que, en plus, c'est des petits groupes, car il ne faut pas penser que c'est les hordes d'Attila qui déferlent, là. Des tout petits groupes de ça. Donc, ils vont s'installer, et les autres, pour éviter les conflits, sans doute, ou ils se retirent. Donc, ils sont encore plus mobiles, et ça, c'est pas très bon. Plus vous êtes nomade, moins vous avez d'enfants. Vous savez très bien que la sédentarisation a fait exploser la démographie. C'est la première grande explosion, c'est la sédentarisation, vers à peu près 12 000 ans. Donc là, se disperse, et là, en se dispersant encore plus, évidemment. Donc, si vous voulez, il y a une conjugaison de la démographie faible, à partir de 50 000 ans, on le voit au niveau génétique, ça commence. Il y a moins de, on voit très bien, c'est un appauvrissement, vous voyez, de la génétique, du génome. Et cette arrivée des sapiens va accentuer ce processus. Et donc, patatrac, à un moment donné, c'est la chute fatale. Et la démo, vous savez, même encore maintenant, beaucoup de démographes travaillent sur les choses actuelles. Je parle. La démographie, c'est extrêmement important comme donnée. D'accord. Et ça peut faire basculer, justement, dans des catastrophes, soit parce qu'il n'y a pas assez, soit parce qu'il y a trop. Donc, il faut pas négliger. Donc, influence indirecte, d'accord, si j'ose dire, de la venue des sapiens.
En parlant de nature, d'ailleurs, votre enquête que vous avez menée, vous l'avez réalisée avec une immersion de 3 mois avec les Bushmen dans le désert de Kalahari au Botswana. Ce sont des chasseurs-cueilleurs qui aujourd'hui ont tous disparu. Et alors, quel est le lien entre ces Bushmen qui ont disparu et Néandertal?
Alors déjà, ce que je souhaite dire, c'est que moi j'ai été là-bas pour m'ouvrir l'esprit. C'est-à-dire que moi, je sais que ces peuples-là sont des peuples évolués. Ce ne sont pas des préhistoriques figés dans le temps. Ils ont, comme nous, 2000 ans d'histoire. Et pour moi, je me mets souvent en colère. À chaque fois, je reprends les personnes qui pensent que ce sont des hommes fossiles. Voilà, des préhistoriques fossilisés. Pas du tout. Donc, ils ont changé, ils ont évolué. Au niveau de la technologie, on le sent moins, parce qu'ils sont restés peuples chasseurs-cueilleurs et tout, mais ils ont évolué. Ils n'ont pas la même mentalité que leurs ancêtres à eux, il y a 2000 ans. Donc ça, déjà, ce n'était pas aller voir des hommes précieux, c'était plutôt pour m'ouvrir l'esprit. J'avais fait ma thèse sur les comportements donc, de subsistance, la chasse, etc. Je suis très passionnée par cette relation à l'animal des hommes. Et là, je me suis dit, mais attends, tu fais ça, tu vas jamais à la chasse, j'aime pas la chasse. Tu es ton derrière sur la chaise et puis tu es en train de nous parler de la chasse. J'ai dit, il faut que j'aille sur le terrain, il faut que j'aille voir, vous voyez, ces peuples qui vivent de ça, comment ils appréhendent les techniques, comment ils font, quelles sont leurs façons de concevoir l'animal et tout ça. Tout ça, voilà, j'ai été, moi, m'ouvrir l'esprit. C'est moi qui ai été, c'était pour vérifier quelque part si ce que j'avançais au niveau des stratégies possibles, au contraire, voilà. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient aberrantes de ce que j'avais pu penser, et puis des choses que je ne pensais pas qui se font. Donc ça m'a vraiment ouvert. Et surtout, j'ai découvert des choses extraordinaires qui ont changé ma façon de voir le monde. Vous savez, il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur. Il n'y a pas de culture supérieure, de culture inférieure. Il n'y a pas, comme certains m'ont dit, il n'y a pas Léonard de Vinci et pas supérieur au peintre de Lascaux. Non. On a des différences. Mais ces différences, c'est point. Il n'y a pas mais supérieur ou inférieur. Non, il n'y a pas de hiérarchisation. Parce que c'est formidable ce qu'ils ont fait. Ils ont vécu pendant des millénaires, les Bushmen du Kalahari. Des millénaires, sans nous, sans les Blancs, je parle. Et tout, ils ont évolué, ils ont parcouru tout ce temps, ils étaient toujours là, ils étaient très nombreux, ils occupaient toute l'Afrique australe avant qu'arrivent les Bantous et après les Blancs. Je veux dire, ils avaient réussi. C'est pas parce que leur culture notamment leur technologie, parce que tout est dans la technologie. On pense qu'on est supérieur parce qu'on a une technologie supérieure. Mais eux, ils ont su répondre. Quand il y a eu des problèmes, des assèchements, des changements climatiques, etc., ils se sont adaptés, ils ont trouvé des solutions. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ils sont dans leur questionnement, ils ont été aussi forts que nous dans le nôtre. C'est-à-dire que ça m'a fait vraiment penser qu'il n'y a pas de culture supérieure, inférieure, il n'y a pas d'homme supérieur, d'humain supérieur et inférieur. Il y a des différences, et c'est bien. Moi, je ne suis pas non plus pour cacher les différences. C'est pas parce qu'on voit une différence que c'est... Mais il ne faut pas dire c'est mieux ou c'est moins bien de l'avoir. Moi, je ne suis pas un homme, je suis une femme, et alors ? Et je ne suis pas noire, je suis blanche, et alors ? Ça veut dire ni supérieure, ni inférieure. Je suis, voilà, comme ça.
Ce qui nous mène à la dernière question. Votre livre, est-ce que l'homme préhistorique est aussi une femme ?
L'homme préhistorique est aussi une femme.
Alors, pourquoi ce titre ?
Et oui, parce qu'en fin de compte, la femme est complètement la femme préhistorique. C'est un peu comme mes collègues historiennes qui ont fait ces constatations. Elle est invisible. C'est-à-dire qu'on dit toujours l'évolution de l'homme, comme si la femme n'avait rien fait, comme si elle n'avait pas participé à cette évolution de l'humanité. Voilà. Et parmi ses activités et tout, on la représente toujours comme étant essentiellement à s'occuper des enfants, à balayer la grotte, comme je dis un peu en m'agaçant. Mais non, pas du tout. On s'aperçoit maintenant qu'il y avait plein d'activités qu'elle pratiquait. Et donc, c'était un peu pour remettre. Alors, juste place, là aussi, c'est pas de faire de ces femmes préhistoriques des femmes supérieures aux hommes préhistoriques, c'est simplement de remettre leur juste place, de casser ces clichés dont on parlait tout à l'heure, ces présupposés, voilà, parce qu'au niveau de la robustesse, je peux vous dire qu'il y avait des femmes préhistoriques robustes, hein.
Oui, et
qui pouvaient faire des travaux très difficiles. On le voit avec des femmes néolithiques qui font des travaux d'agriculture extrêmement durs. On le voit sur leur, elles sont costauds comme tout, comme des sportives actuelles. Donc c'est pour ça que c'était un peu pour casser, parce que comme les hommes, elles ont participé à l'évolution humaine, comme les hommes. Et pendant très longtemps, on n'a pas mis ça. On a pensé que la femme n'avait pas, au niveau culture, participé à l'évolution. Et ça, c'est un peu ça qui m'a vraiment fait réfléchir et travailler sur le sujet.
Donc ça aussi, ce sera peut-être la fin de l'enquête aussi, de dire que ce n'est pas que l'homme de Néandertal, c'est l'homme et la femme.
Bien sûr, la femme et beaucoup de squelettes de femmes.
Merci à Marie-Hélène Patoumatis pour toutes ces explications sur Néandertal. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.